Bonjour à tous, c'est la fête de la radio qui continue et nous allons la fêter sur Radio Éthique et en même temps sur Séquence FM en direct avec nos invités. Et vous allez voir que des grands noms de la radio. On va fêter une radio centenaire, voilà 100 ans que la Tour Eiffel diffusait une première émission sans fil. Nous allons surtout fêter un de ses emblèmes, c'est Radio Monte Carlo qui elle fait figure de petite jeune. Elle n'aura que 80 ans l'année prochaine. Je vous parlais de grands noms et de grandes voix des RMC avec nous pendant deux heures. Jean-Louis Filk, Carole Chabrier, Jean-Claude Bourret, Richard Progetti, Patrice Zer et puis un invité surprise dont je tairai le nom pour ménager le suspense. Des indicatifs comme ça, il y en a eu des dizaines, vous les avez connus ou Jean-Louis Filk?
Parce que vous voulez dire que j'ai l'âge du jingle.
Exactement.
À peu près. Oui.
C'est le plus célèbre quand même.
Mais c'était, c'est le plus célèbre. C'était une signature, ces petits jingles de Radio Monte Carlo. C'était une radio qui suscitait l'émotion, qui suscitait la curiosité aussi. La radio a toujours suscité la curiosité parce qu'on n'a pas l'image, parce que ça suscite cette part de rêve, de mystère. Et Radio Monte Carlo jouait sur ce tableau doublement, c'est-à-dire il y avait le mystère de la radio et puis il y avait le mystère de la situation géographique. Quand vous étiez quand j'étais dans ma campagne bordelaise, que j'écoutais le Tour de France retransmis sur Radio Monte Carlo,
c'était quelque chose.
C'était exceptionnel. Et Yvan Médecin, des gens comme ça, c'était des voix qui venaient d'ailleurs, c'était formidable.
Alors désolé, on va pas faire de journalisme ensemble, Jean-Louis, on va pas faire de commentaires en direct, on va pas faire de Tour de France, on va pas faire d'actualité brûlante, pas de journaux, mais on va faire un petit peu d'histoire quand même. Vous qui avez été, si je me souviens bien, et c'est presque une légion d'honneur, le dernier journaliste opérationnel à Monaco.
Ouais, hein, voilà, c'est ça. Dernier des Mohicans, rien à voir avec cette vieille guerre américaine, mais oui, j'étais le dernier. J'ai assisté à cette transition historique et qui a quand même suscité quelques traumatismes, parce qu'on est passé de radio généraliste à dit ploum ploum tralala, comme dit l'autre, hein. on faisait un peu d'infos, très structuré, et puis il y avait ensuite de l'animation, il y avait des émissions musicales, il y avait des jeux, etc., etc. Et en une nuit, en 12 heures, tout ça s'est arrêté. Et je me souviens que la première nuit de Radio Tout Info, avec un jeune journaliste qui a fait son chemin depuis, qui s'appelait Alain Marchal, on est allé voir le directeur de l'époque, Alain Veil, et on lui a dit « Monsieur Veil, est-ce que la discothèque restera ouverte quand même pendant quelques jours ? Parce que si on a des trous dans l'actu, il faudra qu'on meuble avec de la musique. » Il nous a dit « C'est terminé, ça, plus jamais ça. » Et il a fermé à clé la discothèque, donc on était bien obligé
de faire
du bruit avec la bouche.
On va en parler de la discothèque avec Richard Progetti qui vient d'arriver d'ailleurs. On va évoquer un petit peu la genèse de Radio Monte Carlo pour voir comment elle a été créée, comment elle a évolué, son apogée et puis, il faut bien le dire, son déclin et son renouveau ensuite. Ce que peu de gens savent quand même, c'est que Radio Monte Carlo, après plusieurs projets avortés entre 1920 et 1940, c'est en 1942 qu'elle voit le jour. 42, c'est la guerre, et RMC est fondée par un triumvirat assez étonnant.
Oui. Alors, il y a un Français,
Vichy.
Il y a Vichy, et puis il y a Force Allemande qui est là. Hein. Parce qu'on veut faire, c'est une radio de propagande, en vérité. Les Allemands, ils veulent diffuser de l'information sur le sud de la France, qui est quand même stratégiquement
zone
important.
Zone libre à ce moment-là.
L'Italie, c'est pas rien, et puis c'est pas loin. Et puis, il faut être à l'extérieur, donc la principauté de Monaco. Tout ça va très bien. Ça n'a pas été facile à monter. Hein. Ça n'a pas été facile du tout. Et déjà, à l'époque, on invente d'ailleurs les sociétés écrans pour monter cette radio qui devient une radio de propagande. Alors, ça dure comme ça pendant quelques années. Ce n'est pas très fun à écouter. Et ça se structure sur une radio qui existait à l'époque, qui s'appelait Radio Méditerranée, qui était une radio, une grosse radio régionale qui arrosait un petit peu l'Italie, mais surtout les Alpes-Maritimes, un petit peu les Hautes-Alpes, comme on disait à l'époque. Mais ça n'allait guère plus loin. Et Radio Monte Carlo, donc l'appellation Radio Monte Carlo, est venue se greffer là-dessus. Et puis on a construit quelques bâtiments qui nous rappellent vraiment qui sont les signatures de l'époque. Hein, je ne sais pas si vous avez visité un jour, Noël, je crois que oui, l'émetteur, le centre. Non, le centre émetteur
de
Fontbonne ici. Le centre émetteur, hein, le centre technique, la bâtisse technique, c'est quelque chose de phénoménal avec des murs d'1,50 m d'épaisseur, des plafonds qui doivent être à 10 ou 12 mètres de hauteur. Enfin, c'est quelque chose de un escalier monumental. tunnels, tout ça pour abriter un émetteur à l'allemande.
Bunker.
Ouais, un bunker, voilà, ça. À l'allemande.
La première retransmission, c'est 17 juillet 43, avec la voix de Sacha Guitry, nous dit notre ami Jacques Loudot, qui a quand même fait une somme sur Radio Monte Carlo.
Et de Maurice Chevalier.
Alors attendez, justement, c'est là la polémique, et Richard Progetti, on va en parler. Nous dit notre ami Jacques Loudot, qui a écrit une somme sur Radio Monte Carlo, mais qui n'est malheureusement plus là pour nous éclairer. Et Richard Progetti, justement, ça c'est la première polémique. Le 17 juillet 43, avec la voix de Sacha Guitry, et le lendemain, inauguration officielle avec Maurice Chevalier.
Je suis sceptique.
Vous êtes sceptique ?
Très sceptique.
D'accord. Et qu'est-ce qui vous gêne dans cette...
Il n'y a pas de photo. J'ai des photos avec Chevalier,
oui.
Mais il n'y a pas de photo avec Guitry.
Il n'y a pas de photo avec Guitry. Non. D'accord. Donc vous pensez... Et il n'y a pas d'enregistrement de ces premières heures de Radio Monte Carlo.
On dit que Guitry est passé. Parce que Guitry, il était à côté à Cap d'Aille.
Oui.
Il avait sa villa là-bas. Exact. Il était en villégiature quasi permanente. Et on dit qu'il est passé. Qu'il est passé en curieux. Mais qu'il n'a pas participé. Enfin, je partage tout à fait ce point de vue.
D'accord.
On n'a pas pris la parole au micro.
Même pas un enregistrement. On n'a même pas passé un enregistrement de Guitry.
Je pense pas.
Non,
je pense pas.
Alors, la guerre, on n'en parle plus. En 1946, la paix revient. Et qui arrive ? Quand même des grands noms. Le premier à avoir donné sa patte à Radio Monte Carlo, c'est Francis Blanche, et les premiers canulars téléphoniques. On y reviendra tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on diffuse à ce moment-là sur RMC après la guerre ? C'est pour redonner le moral aux Français ?
Oui,
c'est...
on diffuse de la musique. Alors, il y a des émissions tout à fait marrantes. Les jeux, Souplex et Sorza, je crois, qui commence à débarquer.
La famille du raton.
La famille du raton, sur le banc. Etc.
Sur le banc, oui.
Une émission qui s'appelle, je parlais tout à l'heure, Ploum Ploum Tralala. Oui, ça veut tout dire.
Ploum
Ploum Tralala.
C'était quoi ?
C'était Ploum Ploum Tralala.
C'est surtout les publicités qui, au travers...
Ouais. Jouer en direct.
Voilà. Donc, alors, ce qui est inconcevable maintenant, c'est Martini, Saint-Zano...
Ouais.
Mais c'est des émissions construites.
Absolument.
Et surtout, basées aussi sur le classique, hein, parce que c'est là où il y avait le plus, effectivement. Mmh. Au niveau discothèque, c'était quelque chose d'important. Bon, il y a jazz aussi, mais... Donc, basé aussi sur du classique, sur la recherche, le classique, avec des grands noms. Hein.
Et puis, RMC, c'était aussi la convivialité. Il y avait le club RMC. Tous les gens pouvaient venir à l'intérieur de la radio, boire un coup, discuter avec les animateurs. C'était formidable.
Le fameux bar Martini.
Le bar Martini.
Qui, par urgence, de temps en temps, était fermé parce qu'il y avait rupture de... Pardon, Richard. Oui, il y avait rupture de stock. Et voilà. Non, mais c'était tout à fait... C'était la radio telle qu'on l'a connue à cette époque-là et qui était sorti de la guerre, donc on n'avait plus cette pression, et cette angoisse permanente de l'info qu'il fallait, et puis l'info était structurée, il n'y avait pas de commentaires à l'époque. Les directeurs de l'info à l'époque, je me souviens que Richard a très bien connu, qui s'appelait Michel Moine, qui était un grand patron de l'info, qui arrivait de RTL, et qui disait, alors je vais parler comme il parlait, il disait, chers collègues, le premier qui fait du commentaire sur l'information, je lui fous mon pied au cul. Voilà. Et c'était ça. Et on ne faisait pas de commentaire sur l'information. On rapportait les faits, vérifiés à l'époque, ce qui se fait plus beaucoup. Et voilà. Donc c'était une radio qui était complètement différente.
Alors dans les années 50, on émet sur quelles ondes à ce moment-là ?
Alors on émet en ondes moyennes. Hein,
205
Richard.
Mètres.
205 mètres, ondes moyennes. Les grandes ondes n'existent pas encore. Il faudra attendre plus tard, 1974, si mes souvenirs sont bons. Moi, j'ai assisté à ça aussi. Je suis arrivé, il n'y avait pas encore les grandes ondes, et les grandes ondes sont arrivées en 1974, ce qui a été la deuxième grande révolution de la radio. Oui.
Alors, il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, quand même, la radio, ça tient la place du poste de télévision aujourd'hui.
Absolument.
La famille est autour du
Absolument.
Poste radio.
Absolument.
C'est le centre de la pièce où on vit.
Absolument, avec l'œil magique, le fameux œil magique, parce que les postes de réception à l'époque sont à lampe, donc il faut que la lampe ait le temps de chauffer, donc ça prend quelques...
Je fais de la pub, Telefunken.
Telefunken, par exemple. Telefunken. Voilà, et il faut attendre que cette petite lampe chauffe, ça fait un œil vert, ce qu'on appelle l'œil magique, et les enfants, moi-même, attendions ça, hein, et le son arrivait très lentement, comme ça, et c'était des sons de grande qualité, d'ailleurs. d'ailleurs. Hein. Aujourd'hui, on se targue et on se fait des grandes gorges chaudes sur les qualités de baffles ou de choses comme ça. Écoutez un vieux téléphone con de l'époque avec les quatre haut-parleurs derrière l'écran en paille et vous verrez ce que c'est la qualité sonore d'une réception. Hein. Les techniciens sont d'accord.
Alors ben justement, c'est souvent les révolutions techniques qui amènent l'essor d'une radio. Il y a d'abord l'arrivée du transistor, c'est dans les années 40 aussi, 47, 48, et là, on s'éclate partout. C'est plus le centre de la radio, c'est on prend son transistor sous le bras et on l'écoute dans la nature.
Bien sûr, c'était avant l'heure ce qu'on a connu plus tard avec le téléphone mobile. C'est-à-dire qu'on prenait sa radio sous le bras, on pouvait aller à la plage, à la campagne avec sa fiancée, on pouvait aller sur les Lambretta, les petits scooters.
On découvre le micro-sillon.
Exactement. Et on se balade avec ça. Ça, c'est une véritable révolution. C'est-à-dire que l'auditeur n'est plus captif de la radio, il devient complètement libre, et la radio complètement libre aussi, avant les radios dites libres.
Révolution technique, c'est l'arrivée du Nagra. Là, vous n'allez pas me contredire, Richard Progetti.
Absolument pas. Quel petit bijou.
Quel petit bijou. Mais j'ai fait cadeau à Richard, d'ailleurs, il y a quelques j'espère que tu ne l'as pas perdu.
D'un Nagra
qui n'était pas. On a connu. Alors, les premiers Nagra étaient il faut le rappeler, moi, je l'ai connu. Nagra à manivelle. Hein, je n'ai pas connu pendant
un
ça.
À manivelle. Oui.
Avec un accu. Et il fallait tourner la manivelle.
Oui,
Noël.
J'ai pas connu ça.
Mais j'ai connu le dernier. Hein, ne me dites pas que c'est mon âge, mais. On tournait la manivelle, comme les anciens téléphones, hein. On tournait la manivelle, on rechargeait la queue et on pouvait enregistrer et écouter. Ça a pas, moi, je les ai connus pendant un an, hein. C'était les tout derniers à l'ORTF à l'époque. Et après, ils ont été changés. Et cette boîte suisse, Kudelski,
polonais
d'origine, a inventé ce Nagra qui est formidable.
Je crois que Nagra, ça veut dire il enregistrera.
Il enregistrera, exactement.
En allemand ?
En polonais.
Ah, en polonais, d'accord.
Comme bistrot veut dire, venez boire un coup.
Donc après vient l'installation définitive de la radio en ondes longues, à l'écoute de Lyon jusqu'en Espagne, mais on n'écoute pas Radio Monte Carlo à Paris.
Alors c'est une alors on l'écoutera un peu plus tard. Il va y avoir un émetteur à Paris et puis on a un bureau à Paris. Mais alors là on entre dans une période qui est la période grande zone 74 avec la fameuse ligne Bordeaux-Genève. Et on disait dès qu'on passait au-dessus de Bordeaux, de cette ligne Bordeaux-Genève, on n'écoutait plus la radio. On l'écoutait. Moi j'ai m'est arrivé d'écouter en grande zone par des systèmes d'écho plutôt le soir ou la nuit en Normandie par exemple dans un bled qui s'appelait les petites dalles à côté de Fécamp, complètement sur le bord de la Manche, et j'écoutais Radio Monte Carlo en grande zone. Donc, après, il y a eu un émetteur à Paris, mais c'est vrai que c'est resté pendant très longtemps. Et ça, je crois que c'était une décision, je ne sais pas si Richard sera d'accord avec moi, décision politique. On ne voulait pas que Radio Monte Carlo emmerdait, si je puis dire, les autres radios, RTL, Radio France,
Europe,
Radio Nationale, Europe.
Mais alors, c'est un gros inconvénient de ne pas être écouté à Paris, ou ça permet de garder la tonalité sud ?
Alors, ça permet de garder la tonalité sud, mais il y a quand même de gros inconvénients, par exemple les sondages. On nous abreuvait ça, les sondages aujourd'hui. Il y a l'audimat, oui, Richard ?
On captait la nuit.
On captait la nuit, oui.
Sur Paris.
Oui, oui.
Ça fonctionnait parfaitement.
Oui, oui.
D'accord.
Oui,
la
oui.
nuit.
On captait la nuit. Et donc, il y avait les sondages. Et alors, ça a été l'anomalie. Ça nous a foutu en colère pendant des années. Les sondages s'arrêtaient en juin, juillet, août. C'est-à-dire qu'au moment où les auditeurs du Nord venait se faire bronzer l'arrière-train sur la Côte d'Azur, et ben on n'était pas sondé. Ou alors là, on aurait fait des scores tout à fait faramineux. On n'était pas sondé. Et quand il remontait à Paris, que notre zone d'écoute.
Là, les sondages battaient son plein.
Les sondages tournaient plein pot. Alors ça nous a permis, oui, vous avez raison, Noël, de garder notre identité. Mais enfin, après. On est rentré dans une ère où il fallait parler business, il fallait parler économie, il fallait parler rentrée de pub, il fallait parler etc. etc. Ça a quand même été un coup assez dur pour nous. Ouais.
Elle a quand même traversé des périodes assez sombres, Radio Monte Carlo, dans ces années-là, les années 60. Il y a eu la guerre d'Algérie, il y a eu mai 68. Comment elle s'en est tirée ?
Elle s'en est tirée parce qu'elle était. Alors, elle avait ce bureau parisien qui travaillait comme les autres sur Paris, mais elle gardait toujours cette connotation Grand Sud, c'est-à-dire rien n'est très grave. Mm-hmm. Les choses graves se passent ailleurs. Nous, on était la radio du soleil. C'est devenu un slogan par la suite, et on était une radio qui ne se prenait pas la tête et qui ne prenait pas la tête de ses auditeurs. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fait des émissions spéciales information. émission pour remplacer une émission de jeu ou d'animation, par exemple. Ça n'existait pas. Alors qu'aujourd'hui, ça serait inconcevable. Inconcevable. Moi, les premières émissions spéciales info, il a fallu attendre la guerre du Golfe pour décaler, ouais. pour décaler, écoutez-moi bien, une émission musicale. C'est, aujourd'hui, c'est impensable. Impensable. Le moindre zozo qui se balade avec un fusil dans une forêt de Dordogne fait arrêter tous les programmes, mais tous les programmes du monde. À l'époque, pour nous, c'était inconcevable. Les programmes avaient une prise sur l'antenne qui était considérable par rapport à l'information.
Et puis c'est l'apogée dans les années 70.
Et ça me fait mal de le dire.
Hein. Je m'en doute. C'est l'apogée dans les années 70 avec tous les grands noms qui sont venus à la radio. Des animateurs, il y a eu André Torrent, il y a eu Frédéric Gérard, il y a eu des journalistes, Jean-Pierre Lescure, Jacques Paoli, la voix de Jacques Paoli, c'est formidable.
Pierre Lescure.
Qu'est-ce que j'ai dit ?
Jean-Pierre, c'est son frère.
Cher fils. Jacques Paoli.
Cher fils, Jean-Robert Cher fils,
Bernard Spindler, Jean-Michel Desjeunes, vous-même, Jean-Louis, Hélène on ne peut Vida. Pas tous les citer.
Hélène Vida, parce qu'il est important de dire, peu de dames étaient à l'époque dans l'information, on est d'accord, pratiquement pas.
Ouais. Donc, mais celles qui étaient sont restées jeunes.
Bien évidemment.
Alors donc, ils sont tous passés par RMC, mais ils l'ont tous quitté, pourquoi ?
Alors ils ont tous quitté parce que... L'appel de Paris, l'appel de Paris. Vous avez connu ça, Noël, l'appel de Paris. Je ne sais pas si vous avez eu des offres, mais moi, pendant que j'étais à Radio Monte Carlo, j'ai eu, allez, au bas mot, une petite dizaine d'offres de Paris. Monte à Paris, tu t'enfermes là-bas, tu t'étouffes, tu vas mourir, il n'y a pas d'avenir, voilà. Et puis, il y avait cette idée préconçue des Parisiens, y compris au sein de notre rédaction, vous l'avez connu d'ailleurs, où on était véliplanchiste l'été et skieur l'hiver. Et on ne bossait jamais. Et quand les gens de Paris descendaient à Monaco pour bosser, ils repartaient, alors ils venaient, on les faisait descendre en juillet-août, c'était leur cadeau, ils repartaient, ils étaient blancs comme des cacas de laitier, comme dit l'autre. Et on les disait, mais t'es jamais allé à la plage ? Ils disaient, bah non, j'ai pas eu le temps, non, je suis descendu 2 mois, je suis allé une fois à la plage un matin, il pleuvait. Eh ben oui. Parce qu'on travaillait ici.
Est-ce que vous pensez que le parisianisme nous faisait considérer comme une radio de seconde zone ?
Absolument. Oui. Absolument. J'en suis convaincu. Absolument convaincu. Et ils étaient. Et en plus, on avait sur le terrain une convivialité qui se ressentait sur l'antenne. Moi, je demandais à mes gars, quand j'étais patron des sports en plus, j'ai dit, vous laissez jamais, jamais un confrère, même concurrent, dans la mouise. S'il tombe en panne de nagra, vous lui prêtez un nagra. Vous vous démerdez. Vous lui passez la bande. La concurrence, allez, c'est idiot. C'est imbécile. C'est imbécile. C'est pas parce que vous allez rater un truc un jour que les auditeurs vont fuir et aller écouter une autre radio. C'est pas vrai. Soyez conviviaux. Et ça s'est toujours bien passé. On avait cette réputation. Alors, les Parisiens, après, ils disaient, ouais, va demander à Radio Monte Carlo. Ils sont tant couillons, comme on dit dans le Sud, qu'ils vont tout te passer. C'était pas ça. C'était qu'on voulait avoir un truc de convivialité. Et les Parisiens nous prenaient un peu, alors je vais employer un mot, j'ai tellement de respect pour le monde paysan, mais pour des pecnos, quoi. Et on a toujours gardé un petit peu cette image, malgré les stars qui passaient à Monaco. Et on en a eu un paquet de stars. Hein. Voilà. Notre problème, c'était, alors je le dis avec tout le respect que je dois à tous ceux que je respecte, en tant que directeur généraux, mais on le doit quand même à quelques directeurs généraux qui n'étaient quand même pas à leur place.
D'accord. Et de quand date le déclin ? De l'arrivée de la gauche au pouvoir qui a tout bouleversé ?
1980, c'est clair. 1980. Moi, j'ai connu entre 1974 et 80 des audiences qui atteignaient les 14 points. 14 points d'audience.
Aujourd'hui, ça n'existe plus. Et ça passe plus. À 9.
Ça passe à 9 d'un coup. Ça n'existe plus. Alors, il y a eu les radios libres. Qui sont, enfin, libres. Voilà, les radios indépendantes, c'est une radio libre, il faut encore m'expliquer aujourd'hui ce que c'est. Et puis, il y a eu surtout cette noria de directeurs, de directeurs, de sous-directeurs, de directeurs adjoints, ouais. qui descendaient de Paris. Alors, pour passer du bon temps, pour attendre un éventuel semi-marocain ministériel à Paris, pour attendre la retraite, pour enfin des gens qui étaient pas là pour bosser et qui Radio Monte Carlo, quand on y travaillait, on avait un attachement viscéral, familial, c'était une famille. Et ces gens-là, ils arrivaient, c'était le cousin lointain qui venait passer un peu de bon temps. et qui se barraient aux premières pluies de l'automne. Et ça, alors il y en a eu des biens, hein, il y en a eu des bons, mais il y a eu des fous. Il y a eu des fous, je vous le dis. Il y avait des fous. J'ai assisté, moi, un directeur général qui a piétiné une cassette de publicité pour de la nourriture pour chiens et chats parce que des enfants mouraient de faim dans le monde et on n'avait pas le droit de faire de la publicité pour les animaux. Enfin, c'était et il piétinait la cassette dans l'espace technique.
Ça commençait par H, non ?
Oui,
ça doit être ça, oui.
Bien sûr. Mais c'était quelque chose de phénoménal.
Alors, il y a eu de grands pros, il y a eu Hervé Bourges, il y a eu Yves Mourousier, il y a eu Jérôme Bellet, mais ils étaient tellement différents qu'il n'y avait pas de direction,
bien sûr.
De direction centrale.
Bien sûr. Il venait de Paris et il voulait appliquer à Monaco et à Radio Monte-Carlo les préceptes parisiens. Et ça ne marchait pas. Ça marchait un temps au début parce qu'il faisait de l'esbrouf. On dit, ah ouais, c'est quand même un grand nom qui vient de débarquer là. Alors lui, il va nous. Et puis, en quelques semaines, le bonhomme changeait complètement, s'étiolait. Alors, on louait les bateaux chez Paul Ricard pour aller faire des grandes émissions à Marseille qui nous rapportaient que fifrelin et qui nous coûtaient la peau des fesses. Et le reste de la radio bossait, la technique bossait, l'information bossait, etc., etc. On faisait de l'esbrouf. Mais l'esbrouf, vu de Paris, ne marchait pas du tout. Donc voilà, donc on s'est étiolé comme ça, et puis bon, après les radios.
Il y a quand même eu quelques tentatives désespérées pour essayer de faire remonter l'audience,
oui,
par
sûr.
Exemple Coluche, mais ça s'est pas vraiment bien passé.
Mais ça s'est pas bien passé, parce que Richard, on fait venir Coluche en Principauté de Monaco,
oui.
On sait bien qu'à un moment donné, ça va être la faute de Carr. Et la faute de Carr, elle s'est produite au bout de 2 jours. Donc, à la première neige, elle s'est produite. Alors là, je peux vous dire que... Et voilà, donc ça... Voilà, mais on a fait venir d'autres personnes qui... Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on allait chercher des gens... Eddie Mitchell, Françoise Hardy, Michel Sardou, avec qui moi j'ai fait la matinale. Je faisais la matinale avec Sardou. C'est Sardou qui m'annonçait les pubs, quand même. Et moi, je faisais l'info. C'est quand même fou. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, on va peut-être prendre des gens qui sont un peu plus sud, un peu plus connotation. Et on est allé chercher Hervé Forneri, plus connu sous le nom de Dick Rivers, le labial qui a fait, lui, alors, les beaux jours de RMC, parce qu'il était du coin, et il comprenait très bien qu'il fallait garder cet esprit des anges, si je puis dire.
Il y a eu aussi deux bouleversements considérables. Il y a eu le déménagement. On a quitté l'hôtel Prince de Galles, là où nous sommes aujourd'hui,
oui.
Où est le Novotel, pour aller sur le port Hercule, à côté des machines à café Conti.
Oui.
Et c'est quand même un changement d'ambiance total.
Absolument. Alors le Prince de Galles, ça c'était aussi phénoménal. Si vous avez connu RTL, les anciens locaux de RTL à Paris, rue Bayard, c'est exactement la même chose. Les pièces les plus spacieuses dans l'hôtel Prince de Galles, c'est-à-dire dans la radio, c'était les couloirs. C'était les couloirs, parce qu'il fallait passer... Et oui, il fallait passer à l'époque les chariots du petit-déjeuner. Et les pièces les plus exiguës étaient les pièces où on travaillait.
Alors, avais-tu connu la grande coupole ?
La grande coupole, bien sûr.
C'était immense.
Oui, hein. Oui, oui.
Paraît-il, c'était doré à leur fin, parce que c'est pour récupérer le son.
Absolument.
Bon, ben, c'est un truc fantastique. Oui. Puis on est venu faire des studios, le studio...
Le studio 2.
Et Rotonde.
Où Jethro Tull est venu enregistrer
avec leur camion, la Maison Rouge.
La Maison Rouge, absolument. Et donc, voilà, on a vécu là-dedans. Et ça donnait une âme à la radio. Tout à fait. Le 16 boulevard Princesse Charlotte, c'était historique. C'était, vous passiez dans la Creuse, dans le n'importe où. On vous disait, ah, moi, je suis allé à Monaco. Et vous avez dit, le Palais et le 16 boulevard Princesse Charlotte. C'était quand même formidable. Et puis, oui, on a changé. En 1998, on a décidé de changer. En 1993, l'hôtel qui appartenait à Radio Monte Carlo a été vendu pour 385 millions d'euros, je crois, de francs, pardon, à l'époque, à la Principauté de Monaco, qui l'a récupéré. Aujourd'hui, c'est le nouveau hôtel. Et on est descendu quai Antoine Ier sur le port de Monaco. Et là, ça a été tout à fait autre chose. Là, on a découvert un monde. Alors, on avait des types qui partaient aux États-Unis, qui revenaient avec des idées américaines qui étaient formidables. L'open space. Alors, à l'époque. Alors, l'open space, c'était marrant parce que on arrivait, alors tout le monde, il fallait être convivial, tout le monde travaillait ensemble. Et au bout de 3 jours, on a vu le premier qui a amené une photo de ses gamins qui faisait à peu près 1 mètre carré et qui l'a mis en face de lui. Après, il y a eu un écran d'ordinateur. Ensuite, il y a eu des panières empilées sur à peu près 1 mètre 50. Et c'est-à-dire que les mecs se refaisaient le bureau individuel et ils étaient planqués. Ça me rappelait l'école quand on faisait des bagarres à coups de chic, vous savez, on démontait les stylos. et puis on soufflait comme ça. Ça faisait ça, on était planqués derrière nos trucs et on avait nos petits espaces individuels avec nos plantes vertes, la photo des enfants. Enfin, c'était voilà. Et c'était tout à fait un autre monde.
Et ensuite, il y a eu les deux privatisations, coup sur coup, ouais. Mais à 180 degrés.
Ouais. Une qui nous a fait très mal, c'est Sud Communication. Moi, j'étais patron des sports et lorsque ces gens-là sont arrivés, le premier, il m'a convoqué dans son bureau. J'ai oublié son nom et je ne veux pas m'en rappeler d'ailleurs. Et il m'a dit, Monsieur Filk, on arrête le football. Voilà, on arrête le football. Mais j'ai dit, mais c'est catastrophique. Oui, on donnera les résultats à la fin, mais on arrête, ça n'intéresse personne. Bon, et quand vous êtes patron des sports, ça vous le prenez quand même comme une porte de saloon à plein cadre. Et j'ai dit, c'est pas possible. Et alors on a le premier sondage, bien sûr, badaboum, on s'est pris la première lame. Et là, il m'a reconvoqué, il m'a dit, Monsieur Filk, on va remettre le football. J'ai dit, mais oui, mais le mal est fait.
C'est fini.
Non, mais ça fait. Hein,
c'est fini.
C'est, le mal voilà, est fait. Le mal est fait. Et pour rattraper un truc comme ça à la radio, bonjour, hein, bonne chance. Et c'est pire que le linge avec le nœud, hein, comme disait Coluche. Et on ne l'a jamais rattrapé, quoi. Et des erreurs comme ça, il y en a eu des quantités. Sud Communication, la gestion de Sud Communication sur Radio Monte-Carlo, je n'ai pas peur de le dire, a été catastrophique. Ces gens-là, ils sont bons pour faire des suppositoires et des crèmes à bronzer. Il ne faut pas s'occuper de radio. La radio, c'est un truc de professionnel. C'est voilà. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas ce qu'ils voulaient. Je ne sais toujours pas aujourd'hui ce qu'ils voulaient faire.
Alors, la radio aujourd'hui, elle s'adresse à qui et elle fait quoi ?
Aujourd'hui,
RMC.
Ah, la radio RMC aujourd'hui. Alors, on a inventé le talk show, là. Okay. C'est un truc qui est arrivé des États-Unis.
Info talk show.
Ouais. C'est un truc qui est arrivé des États-Unis. On est allé chercher un type aux États-Unis qui s'appelait Don Watson, qui est arrivé, qui a passé 3 mois en principauté de Monaco aux frais de la princesse et qui nous a inventé des camemberts avec des couleurs. Il fallait respecter la musique d'antenne. Et, enfin, des trucs, on comprenait pas. Et puis, il fallait faire du débat. De la convivialité. Il fallait appeler des auditeurs. Alors les auditeurs avaient la parole, mais c'était pas structuré du tout. Donc on avait des standards qui filtraient pas du tout. Donc on pouvait avoir n'importe quoi à l'antenne. Et puis les gens étaient paumés, quoi. Les gens étaient complètement perdus. On a voulu changer complètement. Vous me direz, à l'heure des charges, on était à l'agonie. Hein. On était en dessous de 3 points d'écoute. Donc là, après, il y a le sous-sol. Hein, c'est fini. Donc on est reparti. On est reparti tout doucement comme ça. On a fait venir Bernard Tapie pour répondre aux auditeurs. Enfin, on a tout tenté. Et heureusement est arrivé un monsieur qui s'appelle Alain Veil et qui lui avait le sens de la radio, de l'écoute et des affaires. Et il a pris une décision qui a été très très difficile à prendre, c'est de dire c'est terminé. Il a changé d'avis. Au début, il disait on va faire CNN, c'est-à-dire que CNN, ils sont pas à Washington, ils sont pas à New York aux États-Unis, ils sont à Atlanta. Eh ben nous, on va faire la même chose, on va faire un grand CNN radio en étant en principauté de Monaco. Et puis il s'est aperçu très vite que ça pouvait pas marcher. Et il est revenu sur sa décision, seuls les imbéciles, comme dit l'autre. Et tout est remonté à Paris, il a retravaillé sur une base. Je lui avais fourni d'ailleurs une idée dont il s'est servi. Qui était la radio Tout Sport, que j'avais proposé 3 fois, la première fois en 1992, où on m'avait ri au nez, bien sûr. Et Alain Veil s'en est saisi et s'en est servi pour créer cette radio Info Talk Sport, et qui a très très bien marché. Et on s'est relevé petit à petit. Aujourd'hui, hélas, je regarde les chiffres là, depuis quelques...
Donc ça montre sa limite.
Depuis un an. Et je vois que cette formule a atteint sa limite parce que tout le monde fait de l'info talk sport aujourd'hui, même déguisé, même RTL n'est plus vraiment une généraliste.
Alors, lors de ses plus belles années, Radio Monte Carlo, en résumé, dans l'imaginaire des auditeurs, c'était quoi ?
C'était la radio de la famille.
Radio de la famille ?
C'était la radio de la famille. C'était
radio des vacances aussi un peu.
La radio des vacances pour les gens du Nord, ouais. Bien sûr. À partir de Lyon, on changeait et on mettait sur 1400 mètres grandes ondes et on écoutait la radio des vacances, la radio du soleil. Hein, c'était ça, la radio du soleil. Et puis c'était la radio de la famille. Mais il y avait le même phénomène avec RTL dans ce qu'on appelle aujourd'hui les Hauts-de-France, hein, le Nord, c'était ça. Et à Paris, il y avait le même phénomène avec Europe 1. Mais nous, on était la radio du sud de la France. Et vous passiez n'importe où, et les gens vous connaissaient. Je vais vous raconter une anecdote, si on a 10 secondes.
On a tout notre temps.
J'allais à un salon nautique en 1977, je crois, ou 78, un salon nautique à La Rochelle, qui s'appelle le Grand Pavois de La Rochelle, qui existe toujours. Et je montais en voiture, à l'époque, avec une 504 voiture de cirque, rouge et blanc, siglée, Radio Monte Carlo, etc., avec la grande antenne sur le toit, enfin, tout ce qu'il fallait. Et un technicien qui m'accompagnait, qui s'appelait Lucien Primo. Et nous montions, et on est arrivé dans le Cantal, ou le Lot, un peu après Cahors, pour déjeuner. On s'est arrêté dans un restaurant de pleine campagne, et donc on a garé la voiture. Donc là, le patron est sorti en s'essuyant les mains, la patronne est sortie, tout le monde est sorti. On s'est assis, on a commandé à déjeuner, on a commencé à déjeuner. Le patron est sorti à la fin du repas nous voir, et il nous dit: ah, vous êtes de Radio Monte Carlo, hein, Radio... Ah, mais moi je connais bien Radio Monte Carlo, je connais bien Monsieur Filk. Et là, on s'est regardé avec Lucien Primo. Et donc, c'était moi. Et j'ai dit: ah, mais vous le connaissez bien? Il me dit: ah, oui, je le connais bien. Moi, je l'écoute le matin, je le connais bien. Mais je dis: mais il est comment? Il est passé, là? Ah non, il n'est jamais passé, mais je connais. Il a une quarantaine d'années. Alors, il me le décrit, et avec quarantaine d'années avec une barbe. Mais je lui dis: mais écoutez, il y a quelqu'un qui est passé quand même, qui s'est fait passer pour Monsieur Filk. Mais il me dit: non, pas du tout, mais je le connais bien. Mais je dis: mais c'est moi. Et là, le type, j'aurais mis une baffe, c'était pas pire. Et il m'a dit: c'est pas possible. Mais je dis: oui, c'est moi. Et je lui ai montré mes papiers d'identité. Je crois que ça a été la déception de sa vie, peut-être avec...
Oui, parce que c'est de l'imaginaire, la radio.
De l'imaginaire. Et j'étais avec lui tous les matins, quand il prenait son café avec sa femme. Et il s'était
construit un personnage.
Le truc. Voilà. Bon, on n'a pas payé le repas. Ça fait notre...
Et chez les acteurs de la radio, c'était quoi l'esprit maison?
Ah, l'esprit maison, c'était la famille.
Aussi
c'était ouais, c'était la famille. C'était en tous les cas, en ce qui concerne l'info, c'était quand même une grosse histoire de famille. On allait surtout les équipes de... Par exemple, il y avait les équipes du soir, mais surtout les équipes de matinaliers. C'était quand même des équipes. On passait souvent quelques week-ends ensemble. On allait déjeuner ensemble, on allait boire des coups ensemble. Il y avait deux, trois bistrots autour, là, dans le fameux Richemont, qui était tout à côté, et dont on a fait le chiffre d'affaires. On a assuré le chiffre d'affaires.
Une caisse d'épargne, maintenant.
Une caisse d'épargne. pour preuve. Voilà. Et puis, il y avait chez Balestra, qui faisait la petite saucisse lentille qu'on allait manger avec Desjeunes et Lescure, le samedi matin.
Et les grillés,
voilà, et les petits plats d'oursin. Enfin voilà, c'était une radio tout à fait familiale, mais où on bossait.
C'est pour ça que ça se ressentait.
À l'antenne. Sans aucun doute, ouais. Richard, sans aucun doute.
Bah écoutez, on va demander son avis à un des grands noms du journalisme, un autre journaliste qui est venu pendant 5 ans à RMC, c'est Jean-Claude Bourret. Le temps d'écouter un petit peu de musique.
Vous êtes près de 5 millions d'auditeurs à l'écoute de Radio Monte Carlo, 1400 mètres ondes longues, la station du sud de la Loire qui fait maintenant rayonner le soleil de la Méditerranée jusqu'aux portes de Paris.
Émission spéciale, ne manquez pas la fête de la radio du 31 mai au 6 juin prochain.
À l'occasion de la fête de la radio, Séquence FM et Radio Éthique réalisent conjointement une émission spéciale à Monaco. Retrouvez sur nos ondes les moments forts de cette journée.